France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Montaigne, parce que c'était lui. Le titre de cette série est un clin d'œil à une formule de Montaigne à propos de son amitié avec la Boétie. La Boétie qui risque d'apparaître ce matin dans ce nouvel épisode. Montaigne, animal politique. Montaigne a mis 20 ans à écrire les essais qui ont été publiés en 1580 puis en 1588 dans une nouvelle édition augmentée. Attention, nous disent les chercheurs, de ne pas oublier le contexte historique, c'est-à-dire la violence des guerres de religion qui sévissent en France depuis la mort de Henri II en 1559 et le déclin des Valois, assaillis par la maladie souvent, par le crime politique parfois. Henri III a été assassiné comme il l'avait anticipé. Et puis, insuffisamment pourvu en descendant masculin, si j'ose m'exprimer ainsi. D'où la fin de la dynastie quand le trône est remis en 1589 à Henri de Navarre, futur Henri IV, qui renonce alors à son protestantisme. Ce contexte est d'autant plus important que Montaigne n'est pas loin des affaires sur le plan politique. Magistrat à la cour des aides de Périgueux, il rejoint en 1556 le Parlement de Bordeaux, où il détient pendant 13 ans une charge de conseiller. Puis il devient diplomate, tentant de négocier entre les diverses parties catholiques et huguenotes et ensuite maire de Bordeaux en 1581, apparemment à la demande expresse du roi Henri III. Que faisait Montaigne exactement dans ses diverses fonctions? Quelle est sa position face aux guerres de religion? Quelles traces y a-t-il de tout cela dans les essais? On a souvent idéalisé, forcé un peu la philosophie dite tolérante de Montaigne, quitte à croire parfois que son texte sur la liberté de conscience, chapitre 19 du deuxième volume des essais, était un hymne à la liberté de conscience. C'est beaucoup plus complexe que cela et ce n'est peut-être même pas du tout un hymne à la liberté de conscience. Nous allons en parler. Montaigne, avec son ami La Boétie, avait fait partie des négociations menées en 1560-61 avec les protestants, sous l'égide d'un Michel de l'Hôpital soucieux de tolérance. Mais il s'avère après coup assez critique de tout cela. Entrons donc ce matin dans sa pensée politique en sortant des images d'Épinal. Bonjour Philippe Dezan.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de l'Université de Chicago, spécialiste des idées à l'époque de la Renaissance et biographe fameux de Montaigne. Et bonjour Jean Balsamo.
Bonjour madame.
Vous êtes professeur honoraire de littérature française de l'Université de Reims, excellent connaisseur des essais de Montaigne. Je renvoie vers le site de notre émission pour les références de vos travaux à tous deux. Replongeons-nous dans les années 1560-1570. C'est Charles IX qui règne en France, il mourra de maladie en 1574, et n'ayant que des filles, il aura pour successeur son frère, Henri III. Mais, bien vivant encore, Charles IX est celui qui régnait lors du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, celui qui avait aussi ses moments de négociation avec les protestants. Écoutez ce dialogue entre lui et le chef huguenot Coligny, dialogue imaginé par Patrice Chéreau dans son film « La Reine Margot ».
Et on a vrillé la balancière, monsieur l'amiral de Coligny. Combien de vos soldats avez-vous perdu? Combien?
Mais arrêtez, ce n'est pas une guerre.
4000?
Mais
plus?
Ce n'est pas une guerre que nous menons, c'est une croisade.
On parle ici d'attaquer le roi d'Espagne.
Et puis nous ne sommes pas prêts. Pas contre l'armée la plus puissante d'Europe, la mieux équipée d'Europe.
Vous ordonnez cette expédition contre l'Espagne et nous basculons avec l'Angleterre du côté des pays protestants.
Combien de temps il faudrait pour être prêt?
Mais nous sommes prêts. Pourquoi vous croyez qu'on a accepté ce mariage contre nature? Pour avoir la paix à l'intérieur du royaume et que les Français réconciliés, catholiques et protestants, partent ensemble faire la guerre
ensemble,
à l'extérieur.
Mais ils seront jamais ensemble.
Vous mentez, il y a 6000 hommes à vous dans Paris.
Mais justement, ils veulent se battre. Ils ont faim, ils ont chaud. Prenez garde. Prenez garde que leurs armes ne servent à une révolte que personne. Personne ne pourra contrôler.
Je la veux, cette guerre. Et le roi la veut aussi. Nous serons prêts.
Viens, Coligny, on va donner à manger aux chiens. Tu me domines, hein? Tu as trop d'influence sur moi.
Bon appétit.
Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Eux. La famille. Les autres. Seulement voilà, moi je ne vois qu'une seule chose. Grâce à toi, je me suis libéré de moi-même. Comment dire, Coligny? Libéré de ma mère. Je suis enfin roi depuis qu'elle n'est plus reine. Et ma mère n'est plus reine depuis que Coligny est mon père.
Ah oui, Catherine de Médicis était une mère qui mettait de la pression à son fils Charles IX, d'ailleurs aux autres aussi, aux autres enfants. Jean-Hugues Anglade, chez Patrice Chéreau, est Charles IX. Coligny est interprété par Jean-Claude Brialy. On entend un rapport ambigu, non dénué de rapport de force aussi. Coligny pressant Charles IX de s'engager dans une guerre contre l'Espagne catholique. C'est l'ambiance qui nous intéresse ici. Pendant ce temps, Montaigne est en train d'écrire les essais. Est-il, Philippe Dezan, très important de comprendre cette situation française et cette situation à la cour ?
Oui, absolument. C'est-à-dire que Montaigne, vous l'avez rappelé dans votre introduction, écrit ses essais durant 20 années, avec des changements extraordinaires au point de vue politique, au point de vue religieux, bien entendu. Sans parler des années qui précèdent les débuts de l'écriture des essais 1572, au moment donc de la Saint-Barthélemy, pratiquement. Ça se terminera en 1588, vous l'avez rappelé aussi, avec, lors des états généraux de Blois, l'assassinat du duc de Guise, suivi un an plus tard, pratiquement jour pour jour, donc d'Henri III.
Donc affaiblissement de la Ligue catholique.
Du pouvoir, bien sûr.
Et est-il vrai que c'est Henri III qui a ordonné cet assassinat du duc
de Guise ? Oui, absolument. Oui, c'est clair là-dessus. Il voulait se débarrasser de la Ligue. Lui-même, ne l'oublions pas, a fui Paris lors des barricades, avec Montaigne, justement.
Oui.
Qui, lorsqu'il rentre à Paris pour aller chez son éditeur, Abel Langelier, pour prendre des exemplaires de l'édition de 1588, sera arrêté par représailles et embastillé et libéré par Catherine de Médicis. Voilà.
Donc on va revenir sur cet épisode.
Un moment, c'est un traumatisme pour Montaigne. Donc Montaigne est plongé dans la politique, qu'il le veuille ou non. Et d'ailleurs, il n'est pas contre cela. C'est-à-dire que le mythe de Montaigne retiré dans sa tour d'ivoire est vraiment une invention, une image d'Épinal créée au XIXe siècle. Montaigne vit la politique. La première édition des essais publiée en 1580 est de nature totalement différente du Montaigne auquel nous sommes habitués aujourd'hui. Ce sont des écrits qui touchent, cette première édition, à des problèmes d'ambassade, des problèmes de morale et des problèmes profondément politiques. Les essais vont être transformés au cours du temps et effectivement on oublie souvent que ces 20 années d'écriture, avec une pratique de politique, vont permettre peut-être de changer la forme des essais, surtout à partir de l'exemplaire de Bordeaux, la partie manuscrite des 4 années de Montaigne, où là je crois que Montaigne s'est finalement un peu retiré de la politique, quoique une dernière lettre à d'essai à Henri IV, lui disant qu'il est tout à fait disponible pour pouvoir revenir, lui donne aussi l'intention de rejoindre cette pratique du politique.
Jean Balsamo.
Oui, permettez-moi de faire trois remarques après l'extrait que vous nous avez fait entendre. Très intéressant. Parce qu'il rappelle qu'il ne s'agit pas simplement d'une question religieuse. C'est pas des catholiques contre des protestants sur des questions de dogme. C'est un parti protestant ou des protestants qui se sont développés en un parti et un parti qui cherche à s'imposer politiquement. Mmh. C'est-à-dire, l'amiral de Coligny veut avoir l'oreille du roi, veut diriger le roi. Et donc, nous sommes dans le politique et non plus dans le religieux. C'est-à-dire, lutter contre les protestants, ce n'est pas lutter contre des idées, c'est lutter contre des hommes qui cherchent à prendre le pouvoir. C'est cela. Et il y aura chez Montaigne une position de cette nature. Il a affaire face à lui qui est du côté catholique, à des gens qui cherche à s'imposer. Ça, c'est le premier point. Et nous n'avons pas, si vous voulez, un problème religieux, mais un problème politique. Le problème politique, il faut aussi le périodiser, je crois. C'est-à-dire, nous avons une relation contre un parti protestant jusqu'en 1576-77, puis il y a les mécontents. Et à partir de 1582, les choses changent, 84, les choses changent complètement. Henri III ne peut pas avoir d'enfant. C'est Henri de Navarre.
Je crois qu'il en a eu de manière non légitime, mais en tout cas, il n'a eu aucun enfant.
Il n'a pas eu d'enfant. Il n'y a donc pas de descendant. Le prétendant légitime est un protestant, Henri de Navarre. Et là se pose un problème tout à fait nouveau, qui n'est plus celui d'une guerre de religion, mais d'une guerre de succession, d'une guerre civile. Mm-hmm. Et Montaigne parlera de guerre civile et non pas de guerre religieuse. Il y a une périodisation dans les essais. Pour certains événements, il s'agira d'une guerre sous prétexte de religion. Dans l'autre cas, une guerre de succession. Le problème qui se pose pour Montaigne après 1584 est le suivant. C'est un loyaliste. Le prince légitime, le prétendant légitime est protestant. Il y a donc un ralliement aux protestants.
Et peut-être faut-il rappeler que une grande angoisse a été la mort par maladie de son petit frère François d'Alençon.
Oui, oui,
car au moment où Henri III n'a pas d'enfant pour lui succéder, il ne reste que lui et il va mourir de la tuberculose. Donc là, on sait qu'il faudra changer de dynastie.
Il faut changer de dynastie et nous sommes dans une guerre de succession. Une guerre de succession qui va se prolonger. Et Henri de Navarre n'est pas devenu catholique en 1589. Il se convertira beaucoup plus tard. Il est le prince protestant. Et il y a tout le problème, un problème de conscience. Il faut à la fois être loyaliste en acceptant le prétendant légitime, mais en même temps, il est impossible d'accepter un roi protestant en France. Et c'est là le problème de Montaigne à la fin des années 1580. Et le troisième point que je voudrais mettre en évidence, vous dites les essais ont été écrits sur 20 ans. On peut le dire, mais on peut dire aussi, je crois que c'est plus juste, que les essais ont été écrits en 8 ans, 1572, 1580 jusqu'à leur publication, les essais sont un livre achevé en 1580, publié en 1580, et ensuite il y aura des réécritures, des compléments. Mais le livre en lui-même, les essais de Michel Montaigne sont publiés, le livre est publié en 1580.
Alors voilà ce que je vous propose, on va suivre l'itinéraire de Montaigne. Donc on ne va pas parler tout de suite de ce qui se passe en 1588, peu avant l'assassinat d'Henri III, du rôle qu'il joue auprès d'Henri Navarre. On évoquera cela plus tard, aussi pour voir les évolutions de Montaigne. Donc plongeons-nous d'abord disons, autour de 1560-61. Catherine de Médicis est particulièrement présente. Et puis il y a Michel de l'Hôpital qui essaye à ce moment-là de négocier de manière tolérante avec les protestants. Montaigne et Étienne de la Boétie, son ami, sont dans ces négociations dites de tolérance. Ils y croient ? Sont-ils critiques tout de suite de ce qu'ils ont fait ? Parce qu'évidemment, ça ne va pas marcher, les guerres vont continuer. Quel est l'état d'esprit de ces deux-là ?
Alors, la pensée de Montaigne... Alors, la Boétie va mourir très rapidement, donc on ne sait pas ce qu'il serait devenu, effectivement, après 1563. On est au début des guerres de religion. Montaigne est au Parlement de Bordeaux. Il est entré au Parlement par la petite porte. Ce n'est pas un nom très connu par rapport à la Boétie, qui est un maître du palais, pourrait-on dire. Tous les deux ont des positions catholiques fermes.
Déjà.
Alors, cette pensée chez Montaigne va évoluer. Mais dans une autre réalité, au début des guerres de religion, Montaigne n'est pas prêt à faire de concessions.
Et donc politiquement, indépendamment
de
sa foi catholique,
il est assez catholique. Alors, c'est pas.
Mais il veut la fermeté déjà.
Il joue en 1562, 1563 une certaine fermeté, absolument. Et donc la position en plus du Parlement de Bordeaux est particulière. Non seulement c'est le Parlement le plus corrompu de France, et Michel L'Hôpital va s'y placer pour faire des remontrances aux parlementaires, mais c'est aussi un Parlement divisé, puisque l'implantation des protestants dans le sud-ouest de la France est beaucoup plus importante que dans tout le reste de la France. La proximité du roi de Navarre, notamment. Donc c'est un Parlement particulier, avec lequel le roi a des problèmes, puisque ces édits ne sont pas systématiquement enregistrés.
Et pouvez-vous préciser ce qu'est un parlement à l'époque ?
Alors, aujourd'hui, on a c'est la cour d'appel. C'est la dernière cour d'appel, grande instance. Donc, c'est une cour d'appel qui présente la justice du roi et qui rend la justice au nom du roi. Sauf que le Parlement commence à rendre la justice de façon bien particulière, puisqu'il y a pas mal de protestants sous le manteau, effectivement, dont le président du Parlement de Bordeaux à cette époque. Et donc, le roi est un peu gêné, et c'est aussi, il faut le reconnaître, un Parlement relativement corrompu. Montaigne est un peu dans ce milieu-là. Son père l'a obligé à faire une carrière de parlementaire pour réussir, pourrait-on dire. Donc il veut réussir, mais on lui met des bâtons dans les roues sans arrêt. Il ne fait pas une grande carrière de parlementaire. Il va finir par claquer la porte à la fin des années 1560 et faire autre chose. À partir de ce moment-là, il va devenir gentilhomme, bien entendu. Donc c'est une période particulière. Au début des guerres de religion, on peut dire que c'est ma position. Montaigne a une position assez dure. Vis-à-vis, il n'est pas prêt au compromis avec les protestants.
Plutôt la Ligue catholique alors, que les Coligny et compagnie huguenots.
Alors, la Ligue, non. Montaigne n'est jamais dans les extrêmes. Montaigne déteste les extrêmes, il est toujours dans la modération. Il y a un très beau chapitre de la modération. C'est un homme qu'on accusera d'être assis à cheval entre les deux Henri.
Donc ferme mais modéré.
Ferme mais modéré.
Si on arrive à comprendre cette idée.
Politique. Un P majuscule,
d'accord.
Dans l'acceptation du terme au XVIe siècle, quelqu'un qui est prêt à discuter, avec Jean Bodin peut-être, dans les années 1560.
Ah, merci, on anticipe un tout petit peu, mais c'est une question sur laquelle je vais revenir. Jean Bodin va faire paraître ses 6 livres de la République en 1576, c'est un texte majeur qui va fonder la notion de souveraineté moderne, souveraineté de l'État, et qui va dans le sens d'un État absolument fort. On va y revenir, je voudrais entendre Jean Balsamo sur ces années 1560-1570 de Montaigne.
Là aussi, 3 choses à mettre en évidence, si vous voulez. Premièrement, la situation de Bordeaux, qu'on oublie. Il faut remonter un peu avant. Bordeaux est une ville qui s'est révoltée contre le pouvoir royal et qui est en difficulté avec le pouvoir royal depuis le début du siècle, si vous voulez. En 1548, la grande révolte de Bordeaux a conduit à une répression épouvantable dont le Parlement a été victime. Et les parlementaires gardent une hostilité à l'égard du pouvoir royal depuis cette date, si vous voulez. Montaigne est parlementaire, pas un parlementaire aussi médiocre que Philippe le dit, je crois que c'est un personnage plus important. En 1565, il fait partie d'un groupe catholique. Il n'y a pas de ligue encore. La ligue, c'est beaucoup plus tard. Il fait partie d'un groupe catholique. C'est un client de la famille de Foix. Et la famille de Foix, les différents membres de la famille de Foix, représentent le parti catholique à Bordeaux. À Bordeaux et dans l'ensemble de la Guyenne. Et donc, il est très engagé. Il est très engagé, mais comme un parlementaire, et il n'a pas d'action. Et là, nous sommes encore dans une période où Montaigne n'existe pas. C'est Michel Ekem, parlementaire. Montaigne n'existera véritablement en tant que Montaigne, une fois qu'il aura quitté le Parlement, qu'il aura pris la succession de la seigneurie de Montaigne après la mort de son père, devient gentilhomme, et ensuite a une carrière très étrange, extrêmement brillante, à partir de 1572. Et les essais, c'est 1580. Vous voyez, il faut donc périodiser. Mais en 1565, après la mort de la Boétie, Montaigne est effectivement un magistrat catholique engagé dans, on pourrait dire, l'aile droite du catholicisme.
Oui, donc quand même pas tout à fait modéré.
Et pas du tout modéré.
Ah bon, alors il n'aimait pas du tout la Ligue, qu'il était bien plus modéré.
Alors, le fait de ne pas être modéré ne veut pas dire être un meurtrier et être un tenant à Saint-Barthélemy. Simplement, il refuse le protestantisme et il refuse ce que représente le protestantisme, c'est-à-dire une puissance politique et militaire séditieuse.
Donc, si je puis me permettre, nous avons le même problème d'analyse de Montaigne que nous l'avons pour la Boétie, car il reste une énigme chez la Boétie, lui qui n'était pas contre certaines formes de désobéissance. Il l'a montré dans le discours de la servitude volontaire de 1548. On lui attribue parfois, je sais qu'il, et c'est intéressant, on n'est pas sûr tout à fait, le mémoire touchant à l'édit de janvier 1562, où après avoir été dans les négociations de Michel de l'Hôpital, il fait un texte pro-État ferme qui doit défendre le catholicisme contre toute autre religion désobéissante. Il dit d'ailleurs que les catholiques, c'est la vraie religion. Enfin, il a une fermeté qui n'a plus rien à voir avec le discours de la servitude volontaire. Est-ce bien lui qui l'a écrit ?
Moi, je pense, oui. Beaucoup d'historiens également, à part 2 ou 3, mais je crois que la majorité, aujourd'hui, pense que ce texte est certainement de lui. Alors, ce texte, on a douté, effectivement, parce qu'il semble un peu contradictoire par rapport au discours de la servitude volontaire.
Plus qu'un peu, oui.
Voilà. Mais, d'un autre côté, c'est un texte ponctuel.
Oui.
Qui représente une position que j'ai trouvée, la position de Montaigne également.
Donc ils ont la même position.
Ils ont la même position.
Fermeté de l'État contre les fausses religions.
Ton négociation. Et là, vous me permettrez de revenir, on a parlé de la liberté de conscience, le fameux chapitre, écrit par Montaigne très tôt, puisque c'est dans le 2e livre. La première phrase veut tout dire. de ce texte-là.
Alors, j'ai
texte-là.
Sous les yeux. Il est ordinaire de voir les bonnes intentions, si elles sont conduites sans modération, pousser les hommes à des effets très vicieux. Pourquoi est-ce si important ? On parle du texte sur la liberté de conscience.
Oui. En ce débat par lequel la France est à présent agitée de guerre civile, le meilleur et le plus sain parti est sans doute celui qui maintient et la religion et la police ancienne du pays.
Donc c'est clair et net.
C'est clair, c'est tout est dans cette première phrase. Oui. Voilà, puisque là, Montaigne parle de la liberté de conscience. La liberté de conscience a été donnée aux protestants dans les années 1560 par divers édits royaux. Mais le problème, c'est qu'au début des années 1570, Duplessis-Mornay notamment, réclame plus. C'est-à-dire, ce qui suit logiquement la liberté de conscience, c'est la liberté de culte.
Ah, parce que c'était distingué dans l'esprit.
Ah oui, complètement. C'est-à-dire que les protestants, au début des années 1560, réclament uniquement la liberté de conscience.
Mais concrètement, ça veut dire qu'ils peuvent publier ce qu'ils veulent.
Ils peuvent penser ce qu'ils veulent.
Mais pas avoir des cultes.
Mais pas avoir une pratique. Et donc, on accorde, effectivement, et il y a plusieurs phrases chez Montaigne, où on leur a donné la main et ils prennent le bras. Et donc, pour Montaigne, il établit une distinction ici entre, effectivement, la liberté de penser, qui est une bonne chose en soi, c'est le bon sens. Il dit, donc, c'est une bonne intention. On ne peut pas s'opposer à la liberté
de... Oui, c'est moral, quoi.
C'est moral. Oui. La liberté de penser, la liberté de conscience. Mais... ce qui suit, effectivement, des règles, les règles de la société, et on doit, pour cette façon, accepter, donc, la coutume et la religion.
Je suis content que vous abordiez ce texte qui est extraordinaire. C'est le chapitre 19 du deuxième volume des essais. Donc, si je comprends bien, il est publié en 1580.
Oui.
Et il semble... Il annonce de la liberté de conscience, donc on a l'impression que c'est une défense. Mais plus on lit, plus on a le sentiment qu'on a fait des bêtises.
Absolument.
Pour Montaigne, dans les années 1560, peut-être que je confonds.
En
tout cas, je voudrais juste dire aux auditeurs, et vous allez nous aider à commenter, si en plus il y a du désaccord, j'adore ça, moi, parce que je pense que le texte de Montaigne est extrêmement complexe. Il faut que les auditeurs sachent qu'il donne l'exemple de Julien l'Apostat, qui a été un empereur romain ayant régné après Constantin Ier et même après son fils, et qui, lui, au moment où l'État, c'est un peu anachronique, le pouvoir était devenu chrétien, a donné quelque chose comme la liberté de conscience et de culte aux païens, parce qu'en fait, il avait envie de semer la discorde et d'affaiblir la religion chrétienne au pouvoir. Et d'ailleurs, il semble avoir un petit peu réussi. Est-ce que les rois qui donnaient la liberté de conscience et peut-être de culte à venir aux protestants, étaient assez bêtes pour ne pas comprendre que ça allait produire exactement les mêmes effets que Julien l'Apostat. On a l'impression qu'il dit cela, non ? Jean Balsamo, vous avez une autre lecture.
Oui, c'est un chapitre très compliqué, mais on peut voir un certain nombre d'éléments qui apparaissent. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait de se focaliser sur la première phrase. Si vous voulez, la première phrase est plus longue. Il y a un premier développement d'une dizaine de lignes. Mmh. Et ce développement repose sur une opposition. D'un côté, il y a de bonnes intentions. De l'autre côté, Montaigne dit très précisément, il déplore que ceux qui ont de bonnes intentions et qui représentent le bon parti, le parti catholique, si vous voulez, aient été poussés par la passion hors des bornes de la raison et leur fait et ont pris des conseils injustes, violents et encore téméraires. Donc, ils déplorent que les catholiques ont pris des décisions téméraires. À quoi fait-il allusion ? Il fait allusion, me semble-t-il, au mauvais conseil de la répression anti-protestante qui a été caractérisée par la Saint-Barthélemy. Il dénonce ici, au début, une répression violente contre la Saint-Barthélemy. En fait, les rois ont appliqué deux comportements à l'égard de la sédition protestante. La première, Montaigne l'évoque dans un chapitre antérieur, qui est le chapitre qui précède de l'amitié, ces folies de rapporter le vrai et le faux. Et il rappelle que les catholiques ont fait un effort dans les années 1562, lors du colloque de Poissy, pour essayer d'adapter leur propre dogme au dogme protestant. Et ce sont les concessions du cardinal de Lorraine qui a essayé de trouver un accord avec Théodore de Bèze sur la base de la religion d'Augsbourg. Je vous renvoie à l'édition de la Pléiade, page 188, quand Montaigne dit « Il me semble apporter autant de désordre en nos consciences, en ces troubles où nous sommes de la religion ». C'est cette dispensation que les catholiques font de leurs créances. C'est-à-dire, les catholiques font des concessions aux protestants. Alors, première étape, les concessions des catholiques. Ça n'a pas marché. Les protestants ont refusé ces concessions. Deuxième étape, totalement contraire, les catholiques ont réagi par la violence de la Saint-Barthélemy. Et cette mesure violente, le crime d'État de la Saint-Barthélemy, est un échec. Également, les guerres de religion ne se sont pas arrêtées. Et donc, il y a une troisième étape que Montaigne met en évidence dans le chapitre de la liberté de conscience, c'est la fin. Si vous voulez, les rois ont fini par accorder la liberté de conscience. Ils n'ont pas pu résoudre le problème par la concession, ils n'ont pas pu résoudre le problème par la violence. Il ne leur reste plus qu'à donner une solution moyenne qui est celle de la liberté de conscience. Cette liberté de conscience, ils la font contre leur gré, mais c'est le seul moyen provisoire de régler le problème. Les rois, et dit-il à la fin, voyez, je crois mieux pour l'honneur de la dévotion de nos rois, c'est que, n'ayant pu faire ce qu'ils voulaient, ils ont fait semblant de vouloir ce qu'ils pouvaient.
Oui, alors c'est quand même une phrase très difficile. Hein.
Oui, c'est-à-dire, les rois, ça veut dire,
ils ont
les
fait
rois,
semblant de quoi ?
Les rois ont fait semblant de croire que la liberté de conscience allait apaiser la vigueur de la du protestantisme, faute d'avoir pu l'extirper ainsi qu'il l'aurait voulu, soit par les concessions, soit par la répression violente. Ils n'ont pas pu faire, ils font semblant.
Donc ont-ils oublié la leçon de Julien, l'apostat empereur romain, qui est au centre de ce texte, et Julien savait bien qu'en donnant de la liberté à une autre religion, il allait affaiblir la dominante.
Exactement.
Je vous écoute.
Oui, c'est tout à fait ma
Philippe
position.
Philippe
Dezan.
C'est pas ce que dit Montaigne.
C'est tout à fait ma position, je vais dire pourquoi. Ce chapitre-là est relativement court, il n'y a pas vraiment d'ajout majeur. C'est pas un texte qui a été transformé, comme c'est l'habitude souvent de Montaigne, il y a quelques essais qui sont de cette façon, bien entendu. Dire que je crois que le problème pour Montaigne, c'est effectivement le passage de la conscience à l'action, de la liberté de conscience à l'action. Et c'est l'exemple dont vous avez parlé, ce qui fait problème pour lui. Et il n'a pas grand-chose à ajouter. Je remarque aussi que Montaigne ne parle jamais du massacre de la Saint-Barthélemy.
Ah, il n'en parle jamais ?
Non.
Parce que Jean Balsamo est ferme sur le fait que c'est très... Alors, présent à son esprit et qu'il le condamne
oui,
fermement.
Oui, mais moi je suis un vieux matérialiste, il n'y a pas de texte, je ne lis pas entre les lignes, il n'y a pas de ligne qui nous parle de la Saint-Barthélemy dans les essais. Et c'est une absence remarquée et remarquable, on peut dire. Donc je crois que cet essai tourne un peu en eau de boudin, parce qu'en fait les exemples sont plus importants, et donc cette phrase, cette synthèse qui est là au début, est suivie d'exemples. Pour démontrer cette conclusion qui est dans la première phrase, à mon avis.
Mais
je vous en prie,
Jean Balsamo, allez-y. Quelle est la conséquence de la liberté de conscience ? Montaigne l'évoque dans l'avant-dernière partie de son texte. Il dit « La liberté de conscience, selon Julien l'Apostat, peut avoir deux conséquences. Ou bien elle envenime les débats politiques. »
Et elle crée de la division.
Et elle crée de la division.
C'est ce qu'il souhaite.
Ou bien... parce qu'il y a une forme de liberté de conscience, elle affaiblit les conflits religieux.
Oui, il dit à la fin, je vais dans votre sens, lâcher la bride permet d'amollir...
De relâcher la facilité par l'aisance, oui. Et que c'est émousser l'aiguillon qui s'affine par la rareté et la nouveauté. En d'autres termes, si on réprime les protestants, ils vont devenir plus véhéments.
Plus belliqueux.
Plus belliqueux. Alors, adoucissons les choses par la liberté de conscience. Et Montaigne termine en disant, eh bien, finalement, et s'y croit mieux, c'est-à-dire en français d'aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle je crois, pour l'honneur de la dévotion de nos rois, que c'est la solution qu'ils ont choisie. Ils ont pensé, ou ils ont fait semblant de penser, que en donnant la liberté de conscience, ça allait adoucir la véhémence des protestants.
Mais regardez la critique. Il dit exactement, Montaigne, n'ayant pu ce qu'il voulait, oui. C'est-à-dire, ils voulaient calmer le jeu.
Non, et ils non, ont... pas mais calmer si, le jeu, non, ils pas réussi. Ils voulaient réprimer. Pourtant, n'ayant plus ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire ils n'ont pas pu extirper le protestantisme, et à défaut de l'extirper, ils le calment. C'est ça. Et c'est là un cynisme beaucoup plus important.
Ils, n'ayant plus ce qu'ils voulaient...
N'ayant plus ce qu'ils voulaient.
Ils ont fait semblant de vouloir ce qu'ils pouvaient.
Oui, absolument.
Je n'ai pas dit que c'était facile à comprendre. Oui. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il dit qu'ils n'ont pas pu faire jouer la bonne logique, c'est-à-dire donner la liberté de conscience pour calmer le jeu, pour obtenir la paix. Ils ont eu, en vérité, une logique à la Julien, la Posta. Exactement. Ils ont eu des divisions exacerbées. Et maintenant, ils font semblant de vouloir ce qu'ils ont pu. Bref, ils subissent la situation.
Oui, mais c'est vrai. Ils subissent la situation. La suite logique à cette liberté de conscience qui est effectivement le débat sur la liberté de culte. Il va de soi, quand on est libre de penser et de libre de pratiquer une religion nouvelle, ce que Montaigne appelle les religionnaires, hein, donc ce parti politique qui est quand même très religieux pour Montaigne, puisqu'il l'appelle les religionnaires comme on le fait à cette époque-là, ils n'ont pas pensé suffisamment que, s'ils avaient pris tous mes exemples qui suivent, ils auraient bien vu qu'ils s'étaient engagés dans une voie, effectivement, où il y aurait une remise en cause. Effectivement, on commence à demander des lieux de culte, bientôt des villes. Voilà, la religion devient une pratique. Et donc, la religion catholique a été débordée par une erreur qui partait d'une bonne intention.
Alors, attendez, parce que je vais vous poser la question pour son ami La Boétie. Dans le mémoire touchant à l'édit de janvier 1562, attribué quand même, je crois comprendre, à La Boétie, celui-ci dit, et maintenant c'est trop tard, parce que nous avons traité mollement l'ennemi religieux, et maintenant, si nous le traitons fermement et durement, comme il aurait fallu le faire, nous allons créer des martyrs, puisqu'ils sont forts maintenant, et ce sera pire. C'est ça le texte de La Boétie. Jean Balsamo, est-ce que vous pensez que Montaigne est sur cette ligne en appelant à un État très ferme, enfin, mais tout en sachant que la fermeté aurait dû avoir lieu plus tôt.
Non. Pardonnez-moi, je pense qu'il faut là aussi périodiser. La Boétie, c'est avant la Saint-Barthélemy.
Oui, bien
là,
sûr.
Nous sommes largement après la Saint-Barthélemy. Donc, échec d'une première tentation, 1563, donc la Boétie vivait encore, de conciliation dogmatique. Échec. Et il y a eu la guerre. Échec ensuite de la répression violente. La Saint-Barthélemy n'a pas éradiqué le protestantisme, au contraire, la envenimée, la durcie, et sous Henri Navarre. Et la dernière tentative qui reste au roi, n'ayant pu extirper le protestantisme du royaume, c'est de tenter, par la liberté de conscience, de l'adoucir, de le contenir. Mm-hmm. Bon. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est ce chapitre est très important aussi dans la disposition du livre.
Le chapitre sur la
liberté de conscience. Il est au milieu du deuxième livre. Rappelez-vous, au milieu du premier livre devait figurer le discours de la servitude volontaire, que Montaigne ne publie pas. Ne publie pas parce que le discours de la servitude volontaire aurait été utilisée par les protestants, contrairement à ce qu'il dit, il ne le publie pas parce que c'est un texte absolument subversif, scandaleux, impubliable, parce que c'est un terme qui est hostile à la monarchie, si vous voulez. Bon. Donc, le problème de la tyrannie que posait le discours de la servitude volontaire est réglé, Montaigne ne publie pas dans le premier livre. Au milieu du deuxième livre, vous avez le chapitre de la liberté de conscience. Moi, je l'interprète comme le chapitre qui clôt le problème religieux dans les essais. On a la liberté de conscience, ce n'est plus un problème, même si c'est une décision de faiblesse, une décision que les rois accordent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et au milieu du livre 3, qui sera publié après 1588, il y a un petit chapitre qui fait vraiment l'axe de symétrie, qui est un chapitre où Montaigne le vrai problème politique pour lui, qui n'est plus le problème de la tyrannie, qui n'est plus le problème de la sédition religieuse, qui est le problème de sa propre relation avec un roi, avec le roi.
Bon, alors, pour ceux qui s'intéressent à ces questions de ce qui est au milieu des livres, etc., je sais qu'il y a beaucoup de travaux, mais je voudrais quand même renvoyer à Michel Butor, l'essai sur les essais en 1968, qui a analysé cette place des essais. Au passage, je me permets de rappeler que Michel Butor a une lecture de la liberté de conscience qui est très Montaigne tolérant, Montaigne agnostique, Montaigne... Et je n'ai pas l'impression que ce soit votre position, ni à l'un, ni à l'autre. Mais enfin, ça existe. Alors, puisque vous venez de parler du roi, et cette fois de Henri III, Henri III souhaite que Montaigne ait un vrai rôle de négociation. Il souhaite qu'il devienne maire de Bordeaux. Alors oui, parce que l'élection, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Vous allez nous expliquer. Écoutez cette lettre de Henri III à Montaigne, datée du 25 novembre 1581.
Monsieur de Montaigne, pour ce que j'ai en estime grande votre fidélité et zélée dévotion à mon service, ce m'a été plaisir d'entendre que vous ayez été élu maire de ma ville de Bordeaux, ayant eu très agréable et confirmé la dite élection, et d'autant plus volontiers qu'elle a été faite sans brigue et en votre lointaine absence. À l'occasion de quoi mon intention est, et vous ordonne et enjoint bien expressément, que sans délai ni excuse, reveniez au plus tôt que la présente vous sera rendue, faire le dû et service de la charge où vous avez été si légitimement appelé. Et vous ferez chose qui me sera très agréable, et le contraire me déplairait grandement.
Nassim El-Kabli de notre équipe a prêté sa voix à Henri III, Philippe Dezan. Pourquoi cette pression de Henri III ? Peut-on devenir maire sans l'avoir voulu ? Enfin, il faut quand même se poser... Comment ça marche ?
Alors, c'est une, encore une fois, Bordeaux est dans une situation bien particulière. Le roi intervient et décide de diviser le commandement de la ville et de la Guyenne et de Bordeaux avec un gouverneur et un maire. C'est la première fois où le maire ne sera pas gouverneur de la ville de Bordeaux.
Ça, c'est le roi qui décide.
C'est le roi qui décide, bien entendu. Il va mettre un homme fort, le maréchal de Matignon, qui va devenir l'homme fort et pour lequel va travailler, d'ailleurs, ce sera un peu... les renseignements seront envoyés par Montaigne à Matignon, qui sera très proche, effectivement, du gouverneur. Mais l'élection de Montaigne, entre guillemets,
oui, voilà.
C'est la nomination de Montaigne, oui. Est un lot de consolation. D'après moi. C'est-à-dire que Montaigne est en Italie. Montaigne a présenté son livre au roi à Saint-Maur-des-Fossés en 1580, quand le livre est sorti. Le livre est un moyen d'approche au XVIe siècle. Il y a les travaux de Nathalie Zeman-Davis qui montrent bien que la fonction d'un livre, c'est d'approcher un grand seigneur ou un prince.
C'était le but des essais.
C'était le édition des essais. C'était profondément politique comme texte, je le rappelle ici, l'édition de 1580, est envoyé au roi, et Montaigne a un rendez-vous au roi à Saint-Maur-des-Fossés, et là, il va quémander un poste, qui est tout à fait normal pour l'époque, hein, puisque, et il entame un dialogue, et il demande un poste d'ambassade en Italie. L'Italie. Alors, on a toujours dit que Montaigne va en Italie parce qu'il venait de publier ses essais, il était très fatigué, il voulait voir le monde et l'Europe, c'est pas du tout ça. Montaigne compte prendre une fonction. Il va rencontrer le pape dès qu'il arrive donc à Rome, et Montaigne est en attente. Nous avons un courrier où il attend effectivement des nouvelles de Paris. Mais il va attendre très longtemps, on lui avait promis un poste d'ambassade, Catherine de Médicis va changer d'avis, il n'aura pas ce poste. Et je crois qu'il est assez mécontent, et il apprend, effectivement, par un courrier, qu'il a été nommé maire de Bordeaux, et ne prend pas la chose si bien que cela. Il va traîner. Je rappelle que le terme de maire est de 2 années, il prendra son premier poste avec presque 5 mois de retard. C'est-à-dire qu'il va rentrer...
Et Henri III est mécontent de ça.
Il est mécontent, il boude. Il n'a pas eu ce qu'il veut, l'idée de la politique, pour lui, n'est pas du tout... la politique de Bordeaux.
Donc vous voulez dire par là qu'il aurait préféré s'occuper de négociations larges, européennes, peut-être entre
bien sûr.
Pays catholiques et pays protestants,
exactement.
Etc., plutôt que des situations des huguenots français, protestants et des catholiques français.
Et d'ailleurs, il s'arrête en Suisse et en Allemagne pour bien montrer qu'il a pas mal appris sur les pratiques du culte protestant dans divers endroits avant d'arriver à Rome. Toujours est-il que quand il reçoit cette nomination, pas d'élection, mais il n'a pas été, il n'a même pas brigué, bien entendu. Il n'est pas si satisfait que ça. Il va revenir, il va dire, bon, écoutez, au Jura de Bordeaux, qui vont le rappeler à l'ordre, parce qu'il ne vient pas à Bordeaux. Il est en train de préparer la seconde édition des essais de 1582, en mettant d'ailleurs ses titres en bonne place. Maire et gouverneur de Bordeaux, ce qui est faux. Il n'est plus gouverneur de Bordeaux à ce moment-là. Mais il a d'autres préoccupations, il le prend assez mal. Mais il va rentrer dans le jeu. Et la partie intéressante de la mairie de Bordeaux, c'est le second terme. Où là, en 1582, Montaigne va tout faire pour être réélu, et là, il le sera véritablement.
Renommé, quoi.
Élu, véritablement élu, cette fois-ci, par les prud'hommes. Et donc, il y a 6 jurats à Bordeaux, 2 parlementaires, 2 nobles et 2 bourgeois.
Entendu.
Et Montaigne va faire une association contre nature, puisqu'il a les parlementaires à dos et il a la noblesse à dos, qui l'inquiète parce qu'il n'y a pas 100 années depuis que la demeure seigneuriale de Montaigne ait été achetée, c'est la règle dans le coin, donc vont remettre en cause ses titres de noblesse. Mais ça ne va pas marcher, mais il va devoir s'acoquiner avec les bourgeois. Et c'est les bourgeois, la force bourgeoise de Bordeaux, qui va permettre sa réélection, qui va être cassée. C'est-à-dire que annulé, l'élection va être annulée, ça va durer pendant 3 mois, et finalement, il va être réinstitué dans son second terme par le roi lui-même et par Matignon. Et là, Montaigne va se prendre très au sérieux et va faire de la politique locale véritablement, et sera, je crois, un assez bon maire durant son second mandat, ce qui n'était pas durant son premier mandat.
Jean Balsamo.
Oui, sur la mairie de Bordeaux, il faut à la fois avoir une approche d'ordre biographique, ce que fait Philippe, et la représentation de cette mairie de Bordeaux dans les essais. Bon. Alors, la mairie de Bordeaux n'est pas, je crois, un lot de consolation. C'est un poste absolument stratégique. Parce que la Guyenne...
Lot de consolation pour Montaigne, hein, je le dis bien.
La Guyenne est déchirée entre catholiques et protestants, et surtout entre un parti royal et un parti rebelle qui est celui d'Henri de Navarre. Et Bordeaux est un poste stratégique. Donc il faut un homme d'une parfaite fiabilité pour le roi. Et le roi nomme Montaigne. En outre, pour Montaigne, c'est un poste prestigieux. C'est un poste prestigieux, c'est pas simplement être maire, un poste administratif quelconque, c'est un poste qui confirme la noblesse. Et dans les essais, Montaigne rappelle que, étant nommé maire de Bordeaux, il occupe un poste qui a été occupé par les aristocrates du plus haut niveau. Et oui, il sera suivi par des nobles du plus haut niveau. Donc ça le met au même niveau que le maréchal de Duras et que le maréchal de Matignon après. C'est quelque chose de prestigieux. Simplement, Montaigne est très réticent parce que il sait que c'est un poste extrêmement difficile, un poste qui ne peut lui valoir que des ennuis, si vous voulez. Ça, c'est le premier point.
C'est pour ça qu'il est réticent, dites-vous. C'est pour ça qu'il craint.
Il n'aura que des ennuis. Il craint profondément. C'est un poste qui le met directement en conflit avec Henri de Navarre. Et il y aura... on le voit dans les lettres à Duplessis-Mornay, en 1583, un vrai conflit lié à Mont-de-Marsan, à une occupation des berges de la Garonne, etc. Donc il est, lui, qui refuse le conflit, obligé d'entrer en conflit. Ce qui est deuxième point, qui est intéressant, c'est la lettre de Henri III. Il y a quelque chose qui ne peut que choquer Montaigne dans cette lettre, si vous voulez, c'est le ton comminatoire. Quand le roi lui dit « ferai chose qui me sera très agréable, le contraire me déplairait grandement ». Montaigne a obtenu jusqu'à présent, jusqu'en 1580, des dignités. Il est chevalier de l'ordre du roi, il est gentilhomme de la chambre, mais sans compensation, si vous voulez, ce sont des obligations mais qui ne demandent rien. Alors que là, c'est une obligation et une obligation qui demande un service. Et Montaigne est très réticent. Il est noble et cette suggestion qui lui est imposée par le roi lui pèse, si vous voulez. Alors, c'est très intéressant. Dans les essais, chapitre 9, quand Montaigne parle de sa nomination à la mairie de Bordeaux, il dit qu'il a été élu. Il ne fait absolument pas mention de l'ordre comminatoire du roi. Et il veut donc apparaître dans sa liberté. C'est-à-dire, c'est une charge qu'il accepte de remplir parce qu'il a été élu et il la remplira tout en ménageant sa volonté. C'est le titre du chapitre. Et il fait disparaître complètement le lien de servitude qui le lie au souverain.
Alors maintenant, j'ai une question qui concerne, on reparlera peut-être de la modération, du fait qu'il a été pris par chaque camp pour appartenant à l'autre. Mmh. Bon. Mais il y a une question peut-être plus politiquement plus fondamentale qui concerne la philosophie politique et la théorie politique. En 1576, donc, Bodin a fait paraître les 6 livres de la République qui prônent un État extrêmement fort, absolument supérieur à tous les autres pouvoirs sur son territoire, la souveraineté absolue. Est-ce que Montaigne connaît cela? Est-ce qu'il le mentionne parfois? Est-ce qu'il pense qu'il faut aller dans cette direction avec Henri III et peut-être après avec Henri IV, même s'il n'aura pas beaucoup le temps de le voir, sachant que les historiens disent qu'Henri IV, sans doute, a tenté, lui, d'aller dans une direction bodinienne pour l'État, pour l'exercice de l'État. Donc merci de nous éclairer là-dessus, Philippe Dezan.
Je pense, effectivement. Alors, Bodin crée un argument nouveau. Il compare donc la personne du roi à le chef de famille. Donc, on part d'un modèle de représentation bourgeoise. Le père de famille a tout pouvoir sur ses enfants et sa famille tant qu'il est chez lui. Donc ça, c'est la liberté dans chaque privé, dans chaque domaine. Pourtant, un père de famille, dès qu'il ouvre sa porte, est dans un espace public. Et là, les règles sont différentes. Il y a des conditions. Le roi est toujours chez lui quand il ouvre sa porte. Donc on ne peut concevoir comme un père, la métaphore est très intéressante ici parce que tout le monde la comprend. Chez Jean Bodin, c'est le premier à l'utiliser, que le roi est le père de famille du peuple français et donc a le droit d'agir au nom du bien public, que lui seul peut décider comme un père peut agir sur sa famille, ses enfants. Et donc c'est ce modèle...
Oui, de la suprématie.
Suprématie, absolument.
Avec ce modèle du père qui est partout
chez lui. Et à mon avis, très proche de la conception de Montaigne. C'est-à-dire cette théorie correspond assez à la notion de l'État de Montaigne, en particulier en établissant chez Montaigne, ce qui devient très important après 1588, un peu plus, mais même avant, en 1585, disons, une séparation entre le public et le privé. On ne peut pas mélanger les deux. Donc, et c'est un peu ce que fait Bodin, d'un certain côté, que là, vous me donnez des arguments privés, mais le roi agit pour le bien public. C'est la notion de raison d'État qui est théorisée par Botero peu de temps après l'italien. Cette notion de raison d'État est très importante, donc on ne peut pas comparer les deux. Et vous avez donc chez Montaigne des phrases qu'on retrouve. Oui, il est permis de tuer et même de torturer. On a toujours dit, mais c'est pas possible, Montaigne ne peut pas dire cela. Oui, mais quand on occupe le pouvoir et qu'on a une fonction publique, on a quelquefois l'obligation, pour un plus grand bien peut-être, de permettre des choses qui ne seraient pas permissibles au niveau de l'individu.
Alors c'est quand même très cocasse, parce que vous venez de me dire que le ton comminatoire d'Henri III ne lui a pas beaucoup plu. Alors quand on est bodinien et qu'on pense que l'État est partout chez lui et qu'il doit avoir la suprématie, il ne faut quand même pas s'étonner que le roi soit parfois comminatoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie de l'État de Montaigne, Jean Balsamo?
Écoutez, vous me permettrez de ne pas suivre entièrement cette voie.
Donc, en désaccord un peu avec
Philippe Dezan. 1576, vous avez raison de souligner, c'est une année fondamentale pour la pensée politique. Il y a Bodin, naturellement, la République, mais il y a Montaigne. Nous ne savons pas si Montaigne a lu la République.
Bodin,
il n'y a aucun...
Il n'y a aucune mention.
En revanche, il y a deux textes de la même année, deux textes fondateurs de la science politique publiés en 1576 que Montaigne a lu et qu'il cite dans les essais ou qu'il mentionne dans les essais. Le traité de la politique d'Aristote, traduit en français et commenté par Louis Leroy à la demande de Henri III, et le texte de l'anti-Machiavel de Gentillet. Et Montaigne a lu ces textes.
Et au passage, Bodin ne veut pas du tout être assimilé à Machiavel. Tout le monde est un peu anti-Machiavel à l'époque.
Alors, la question de la souveraineté telle que la définit Bodin, Montaigne ne l'accepte pas pour une raison, parce que son point de vue est tout à fait différent. Montaigne est, et il le montre dans sa réponse ou dans la manière dont il évoque la royauté, Montaigne est le représentant ou assume une idéologie noble, c'est-à-dire de la liberté de la noblesse. La liberté de la noblesse contre, d'une certaine manière, la servitude d'un pouvoir qui tend à devenir absolu. Et Montaigne écrit les essais au moment où la monarchie française passe d'un âge féodal à un âge absolutiste. Et c'est, en quelque sorte, d'un point de vue conservateur, des valeurs et de la franchise et de la liberté de la noblesse que Montaigne s'oppose à l'État. Et à l'État incarné par un roi tout-puissant.
Donc vous dites exactement le contraire.
Il le dit très clairement dans les essais, chapitre 1, un roi ne peut pas tout demander à ses sujets.
Donc il n'est pas du tout d'accord avec la souveraineté absolue.
Il n'est pas du tout d'accord avec la souveraineté absolue.
Non. Bon, Philippe
Dezan. J'ai une position contraire, comme vous l'avez vu. C'est-à-dire que...
Il y a un espace de liberté.
Montaigne permet cette absolutisme dans un seul cas de figure qui est effectivement le roi lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une distinction qui est établie et qui permet à Montaigne de bien vivre avec certaines de ses idées personnelles, effectivement, une distinction entre le privé et le public. Il y a une très belle phrase de Montaigne qui dit Moi, Michel de Montaigne, le maire de Bordeaux, sommes bien deux.
Oui.
Nous agissons dans des mondes différents. Et il en va de même avec le roi. Donc on comprend, à un moment donné, que l'absolutisme devient une réalité pour pouvoir gouverner. Et je crois que Montaigne est assez proche et assez conservateur sur ce point de vue-là. Défend un statu quo.
Enfin, en même temps, être pour l'État absolu, c'est pas être conservateur à l'époque, c'est vouloir
oui, bien sûr,
entrer dans une nouvelle ère.
Une nouvelle théorie du pouvoir absolu. Absolument. Donc Montaigne distingue les deux, et je crois que plus Montaigne écrit ses essais, plus il crée un espace de liberté individuelle qui deviennent les essais, surtout après 1588, et qui le détache effectivement d'une fonction publique. Les fonctions publiques ne sont plus pour lui après 1588, et il est clair sur ce point, il me semble.
Bon, donc il y a un désaccord, je laisserai voilà, toutes les personnes qui nous écoutent entendre les arguments, on va pas essayer de vous mettre d'accord, enfin c'est pas le but d'une émission, c'est intéressant d'avoir les deux voix, VOX. Maintenant, finissons par quelques éléments biographiques. Donc en 1588, il est proche d'Henri III, au milieu de tous ces assassinats, hein, si j'ose dire, Montaigne, il se retrouve, le duc de Guise est assassiné par Henri III, Henri III va être assassiné quelques mois plus tard. Lui-même va être embastillé. Pourquoi ? Parce que son image est trouble. Et apparaît-il toujours comme un pro-huguenot caché et ça lui vaut des ennuis ? Ou apparaît-il aussi parfois comme un catholique caché ? Est-ce qu'il a des problèmes des deux côtés, Philippe de Zon ?
Alors, il a des problèmes. C'est-à-dire qu'on lui reproche son non-engagement à une époque où les extrêmes sont de bon ton. C'est pas le genre de Montaigne. L'arrestation de Montaigne, quand il entre à Paris, à une des portes de Paris, est par représailles. C'est pas personnel, et il sera d'ailleurs libéré dans la journée par Catherine de Médicis. Donc je crois qu'il n'est pas, on connaît son nom à partir de ce moment-là. Donc c'est uniquement par représailles, puisque un leader protestant avait été arrêté par le roi, c'est uniquement par représailles. Il sera libéré dans les 4-5 heures.
Donc il est, à ce moment-là, quand même arrêté, j'ai bien compris.
Ah, il est arrêté, il est embastillé.
Mais en tant que, pro-huguenot suicide.
Il a suivi, lors des journées des barricades, il a suivi le roi. Il a fui Paris avec le roi. Donc il est vraiment, il a suivi le roi parce que c'est son rôle, ouais, en tant que noble de suivre le roi. Il est vassal d'un certain côté. Il suit le roi. Et donc quand il rentre à Paris, le roi n'est pas rentré à Paris, bien entendu, à ce moment-là. Donc, il est embastillé, mais c'est simplement un signe comme un autre. Il sera libéré encore une fois dans la journée, et il n'y aura pas de suite à cette affaire. Donc, c'est un moment traumatisant, mais je crois que oui, on reproche à Montaigne, mais des deux côtés, de ne pas suffisamment s'engager. Et alors, les ligueurs, bien entendu, lui reprochent, les ligueurs contrôlent la ville de Paris à ce moment-là. Il n'est pas suffisamment catholique.
Ah, il y a cette question.
Bien sûr, il n'est pas suffisamment catholique.
Pour eux, en tout cas.
Voilà, et donc c'est peut-être son problème, c'est-à-dire qu'on lui reproche, effectivement.
Je vais vous laisser le dernier mot, Jean Balsamo, peut-être sur cette ambiguïté de Montaigne.
On ne reproche pas à Montaigne, nuance, de ne pas s'engager, mais de ne pas s'engager assez. Et c'est tout le problème de la modération. Montaigne cherche un engagement modéré, qui indépendant des passions. Alors, il n'est pas ligueur, mais il est profondément catholique. Il n'est jamais considéré comme un crypto-protestant. Il n'est jamais considéré comme. Il est toujours considéré comme un catholique. Et il y a, si vous me permettez, une dernière phrase. Dans les essais, un document tout à fait exceptionnel qui n'est rarement mis en évidence, c'est sa lettre de citoyenneté romaine. C'est-à-dire, c'est un aveu qu'il fait, ou une revendication qu'il fait, d'être un catholique romain au moment même où Henri de Navarre prend le pouvoir. Très intéressant.
Oui. Et Henri de Navarre, il y croyait ? Il pensait que c'était vraiment le roi de la situation ?
C'était le roi.
Officiellement, c'est le roi légitime.
Oui, mais bon, est-ce qu'il pensait qu'il était à la hauteur ? Voilà.
Oui, je pense. C'est un ami en plus de Montaigne.
Non, pas un ami.
Un ami proche de Montaigne.
Montaigne dira qu'on ne peut jamais être ami avec un roi.
Bon.
Non, c'est le texte de Montaigne.
Mais il n'était pas toujours roi.
Il l'a invité à chasser sur ses terres. Il se voyait fréquemment. Donc, par rapport à la position des catholiques, il trouvait cette relation au roi de Navarre un peu trop forte. Et donc, on lui reprochait aussi cela, d'être trop proche du roi de Navarre.
Et vous, vous dites non, et je vais vous...
Mais parce que c'est Henri III,
pour finir.
Montaigne a été a servi d'intermédiaire. Donc, c'est un intermédiaire entre le roi de France et le roi de Navarre. Donc, c'est normal qu'il rencontre Henri de Navarre.
Il n'y avait pas plus d'amitié que cela.
Il n'y avait pas d'amitié. Mais Montaigne dit très précisément, dans deux chapitres des essais, que l'amitié est la plus belle des choses, mais un roi n'a pas d'amis.
Donc même un roi de Navarre, pas seulement un roi de France.
On ne peut pas être ami avec un roi, les conditions sont totalement différentes. Il n'y a pas d'amitié possible avec un prince, avec un souverain.
On s'adresse quand même au roi en tant que mon ami. Enfin bref,
ça ne tiendrait qu'à moi, on resterait ensemble jusqu'à midi. Oui. C'est impossible. Merci beaucoup, beaucoup Philippe Besan, Jean Balsamo. Je pense qu'on a donné une vision de Montaigne qui n'est pas toujours au premier plan et qui semble très importante, très politique. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique du jeudi, le fil philo. Vous savez qu'en ce moment, c'est Laurence de Villers qui la tient. Aujourd'hui, son fil philo s'intitule « Pour ne plus avoir peur d'échouer, le conseil d'Henri Bergson ».
Le fil philo. Vous êtes tétanisé par la peur d'échouer. Vous vous dites que si vous ratez, tout est fini. Henri Bergson vous propose de voir les choses autrement. La vie n'est jamais finie. Elle est une création permanente. Voici pourquoi. Voici comment. Les résultats sont tombés. Cet examen, cet entretien d'embauche pour vous, c'est raté. Je ne vais pas vous vendre du rêve, ce n'est pas le rôle de la philosophie. Vous êtes bel et bien échec et mat. Fin de la partie. Quelque chose vous a fait défaut, le sens de la tactique, une bonne préparation. C'est un fait et c'est douloureux. L'échec a mis fin à des possibilités. Une porte s'est fermée. Du point de vue du résultat, un échec est un échec. C'est comme la flèche qui a manqué la cible. Il n'y a pas à discuter. À comprendre, oui, mais à discuter, non. Vous avez touché à côté. Mais vous pouvez aussi envisager l'échec, non pas par la fin, c'est-à-dire le résultat, mais dans son déroulé même, comme action. Et pendant que vous agissiez, vous viviez. Ce n'était ni réussi ni raté, c'était vécu, du vécu. Cela ne veut pas dire que tout se vaut, mais que si, du point de vue du résultat, il n'y a pas photo, échouer n'est pas réussir, du point de vue du vécu, échouer, c'est vivre aussi. C'est Bergson, le plus célèbre philosophe français de l'entre-deux-guerres, qui m'a permis de le comprendre, grâce à son concept de création de soi par soi. De quoi s'agit-il? Si nous voyons les choses de manière figée, bonne réponse, mauvaise réponse, tout semble s'arrêter avec l'échec. Mais nous pouvons aussi adopter une vision plus dynamique. Au moment où nous agissons, quel que soit le résultat. Agir, vouloir, c'est une croissance perpétuelle, affirme Bergson dans son ouvrage au titre évocateur « L'évolution créatrice » publié en 1907. Tout acte volontaire, dit-il, c'est-à-dire tout acte qui est accompli librement, qui manifeste de la spontanéité, apporte quelque chose de nouveau dans le monde, même l'échec. Car échouer, c'est vivre, et vivre, c'est ajouter du nouveau à ce qui existait déjà. C'est enrichir ce que nous sommes. Notre personnalité, déclare Bergson, pousse, grandit, mûrit sans cesse. Nous sommes les artisans, assure-t-il, de chacun des moments de notre vie. Chacun d'eux est une espèce de création, du simple fait que nous les vivons, que nous rations ou que nous réussissions. Votre personnalité est ainsi faite de tous les actes que vous avez accomplis. C'est ce que Bergson nomme la création de soi par soi, par laquelle vous ajoutez sans cesse à ce que vous êtes. Car exister, c'est changer, et changer, c'est se créer indéfiniment soi-même. Bien sûr, la réussite apporte une joie particulière, celle d'une adversité surmontée, de la capacité à faire que quelque chose marche. Match, pourrait-on dire. Mais l'échec n'est pas une pure perte. Vous avez là aussi agi. Pas comme il fallait, si l'on prend en compte le résultat, mais vous avez bel et bien agi, vous avez puisé en vous de quoi faire advenir quelque chose. Vous avez ajouté de la vie à la vie. Et de ce point de vue, c'est-à-dire du point de vue de l'action elle-même, cela n'équivaut pas à rien. Échouer n'est pas ne rien faire, c'est mal faire peut-être, mais c'est agir quand même. Vous avez mis de vous dans ce que vous avez fait, et ce que vous avez fait a enrichi celui ou celle que vous êtes. Alors, plutôt que d'être uniquement obsédé par le résultat, soyez aussi attentif à l'action que vous êtes en train de mener. Vous en êtes l'artisan, que ce soit gagné ou perdu. Vous en êtes, pour ainsi dire, l'artiste.
Merci Laurence de Villers. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été, ré... Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Éric Perrichot-Triboulet. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Nassim El-Kabli, Corinne Amar, Victoire Mellet. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.